Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand la famille fait mal. Un texte de Maud Goyer, paru le 2 février 2025 dans la presse. On ne choisit pas sa famille. Quand les relations deviennent tendues et difficiles, voire toxiques, certains choisissent de prendre leur distance. Impensable il y a quelques années, cette décision libératrice est encore mal vue. Est-ce que la famille, c'est sacré? À quel point je dois faire des efforts pour conserver ma relation avec ma famille si je suis malheureuse ensuite chaque fois? Cette pensée de Sophie-Anne, prénom fictif, 38 ans, résume le dilemme dans lequel sont plongés les gens qui choisissent de s'éloigner de leur famille. C'est un dilemme moral, profondément humain et déchirant. Ce sont des questions difficiles, confirme la mère de 3 enfants. Et quand on tranche enfin, cela dérange autour, c'est incroyable. Enfant du milieu dans une fratrie de 3, Sophie-Anne se sent toujours marginale lorsqu'elle est dans sa famille. Elle ne se sent pas entendue, pas respectée, pas reconnue. Après avoir traversé une période noire où elle a vécu une dépression, elle a émergé en faisant un constat. Elle devait mettre ses limites. « Mon mode de vie est différent du leur et mes valeurs aussi », confie celle qui travaille dans le milieu communautaire. « J'ai choisi mon camp, le mien. Je veux pouvoir être moi-même. » Des limites. Pour Julia, prénom fictif, mère de 4 enfants, ce même besoin d'authenticité, d'être en accord avec ses valeurs, l'a récemment poussée à s'éloigner de son père. « Il est dépressif, alcoolique, narcissique », raconte la trentenaire. « Mon regard sur lui a évolué. Je voulais prendre soin de lui, le sauver peut-être, mais, plusieurs intervenants me l'ont dit, m'éloigner est préférable. » Malgré toute la souffrance vécue dans cette relation tortueuse, Julia avoue qu'elle vit de la culpabilité. « J'ai essayé de trouver des compromis, dit-elle, mais les abus psychologiques sont trop grands, trop envahissants. Je me sens mal d'agir ainsi, mais je suis libérée. » C'est un peu là l'essence même de prendre soin de soi, souligne Caroline Paquet, psychologue et médiatrice. « Apprendre à mettre ses limites. » Notre passé très judéo-chrétien nous pousse encore culturellement à être gentils, à répondre aux besoins des autres avant les nôtres, explique-t-elle. On ne se laisse pas toujours beaucoup d'espace pour penser autrement qu'en dehors de ce schéma-là. Éloignement graduel. Chacun est responsable de son bonheur, rappelle-t-elle, et cela bouge dans le temps. Ce qui convient à un moment ne convient pas nécessairement plus tard, et c'est différent pour chacun. Une autre façon de l'aborder est de faire le point sur notre capacité actuelle à entretenir telle ou telle relation. On évolue, dit Caroline Paquet. On peut se demander quels moyens je possède en ce moment pour avoir cette relation. Est-ce que je dois couper les ponts ou tenter de diminuer le nombre de fois où je vois cette personne? Je pourrais, par exemple, choisir d'avoir une conversation téléphonique 1 ou 2 fois par année. Selon Solène Bourque, psycho-éducatrice et auteure, il existe autant de façons d'entretenir un lien que de relations. Autrement dit, on peut garder contact d'innombrables façons selon ce qui nous convient. On peut choisir de se voir au restaurant. C'est moins engageant, moins menaçant, souligne-t-elle. L'éloignement peut être graduel. On peut diminuer la fréquence et la durée. Au fond, il faut apprendre à reconnaître ce avec quoi on est à l'aise. S'expliquer ou pas. Comment gérer le dit éloignement? En parler ouvertement peut être difficile, et se trouver des excuses peut ressembler à de l'évitement. Il y a 30 ou 40 ans, on ne consultait pas ou très peu pour des problématiques liées à la famille, note Madame Bourque. Aujourd'hui, c'est très rare que les histoires de famille ne soient pas abordées en rencontre. On évolue comme société. Si l'autre personne est ouverte à la discussion, on peut parler de son malaise à entretenir la relation dans une conversation franche et ouverte. Mais il faut savoir que l'autre peut rapidement tomber dans un mode défensif ou se placer dans une position de victime. C'est du cas par cas, explique la psychologue et médiatrice Caroline Paquet. Si on a le courage d'expliquer à l'autre ce qui se passe pour nous, cela peut l'aider à cheminer. C'est ce que Michel, prénom fictif, a fait lorsqu'il a pris la décision de ne plus voir son fils. Plongé dans la délinquance, avec mille et une mésaventures liées au trafic de drogue, le fils de Michel a menti, volé, abusé de ses proches. Michel a dû, il y a 5 ans, lâcher prise. « Ma santé mentale en payait le prix », glisse le Montréalais de 52 ans. « J'ai failli perdre ma job. J'ai failli perdre ma blonde aussi. » J'ai consulté pendant des années avant de comprendre que je devais le laisser aller. Il doit lui-même réaliser ce qu'il fait de sa vie et choisir de reprendre le droit chemin. Drapeau rouge. Michel, tout comme Julia et Sofiane, a souffert en silence pendant des années avant de décider de prendre ses distances. Est-ce par peur d'être jugé? De passer pour un être égoïste ou faible? Caroline Paquet conseille d'écouter son intuition. Quand on se sent contrôlé, diminué, rabaissé, il vaut mieux se protéger, indique-t-elle, et, dans une relation saine, on se sent valorisé, respecté, libre. C'est ça, la normalité d'une connexion saine. On se sent bien. Les drapeaux rouges incluent aussi notre ressenti avant et après la rencontre avec cette personne, précise Solène Bourque, psychoéducatrice. Avant de voir la personne, est-ce que je rumine? Est-ce que je vis dans l'inconfort parce que j'anticipe les jugements, les malaises? Et après, est-ce que je me sens drainé, coupable ou diminué? Parfois, on surcompense en s'excusant sans arrêt ou on tombe dans un état d'hypervigilance. Il faut surveiller tout ça. Elle revient sur un élément. L'authenticité. Être 100% soi-même avec les gens que l'on fréquente, c'est essentiel. Ce n'est pas vrai qu'on est redevable parce que c'est notre famille, martèle-t-elle. On ne les a pas choisis, mais on peut choisir d'entretenir ces liens ou pas. Le plus important, c'est de poser des gestes et des actions pour bien vivre sa vie. S'éloigner ou couper les liens fait partie de ces gestes. C'était « Quand la famille fait mal », un texte de Maud Goyer, paru le 2 février 2025 dans La Presse.
La créativité contre le gaspillage alimentaire, un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 mars 2024 dans La Presse. Un emballage en résidus de café, une poudre de champignons pour conserver les fruits plus longtemps, une nouvelle glace restant intacte au froid comme au chaud. Jean Busby, la nouvelle chef du département de l'agriculture des États-Unis, USDA, a présenté des projets prometteurs lors de la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences en février 2024 à Denver. Des microbes sur les patates. Dans certains champs, les pommes de terre résistent mieux aux taches noires causées par des champignons. Des biologistes de l'Université de l'Idaho ont donc analysé des centaines de bactéries présentes dans le sol et en ont identifié 2 qui protègent les pommes de terre de ces champignons. Ils préparent maintenant une solution liquide de ces 2 microbes qui est vaporisée sur les pommes de terre avant le stockage. Les pertes durant le stockage, qui sont d'environ 7,5% par an, sont réduites de 10% à 30%. Les agents de conservation les plus couramment utilisés pour le stockage restent fabriqués à partir d'hydrocarbures et les pathogènes y sont de plus en plus résistants, a dit Madame Bosby. Des champignons sur les fruits coupés. On coupe souvent le bout de la queue des champignons avant de les faire cuire. Mais quand ils sont récoltés, un autre bout de queue est aussi coupé. Ces résidus de queue de champignons sont riches en vitamine D. La firme californienne Monterey Mushrooms se prépare à commercialiser une poudre à partir de ces résidus comme solution de rechange au supplément de vitamine D en pilule. Cette poudre, qui possède des propriétés antimicrobiennes, pourra également être saupoudrée sur les barres de fruits et les fruits coupés pour qu'ils gardent leur fraîcheur plus longtemps. Et il n'y a aucun goût, assure Madame Bosby. Des glaçons en gelée. Parmi les résidus du soya utilisés par l'industrie alimentaire, des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont identifié une protéine remarquable. Celle-ci permet de fabriquer une gélatine restant intacte par température froide comme chaude. Avec cette gélatine, ils ont conçu une glace en gelée qui peut remplacer un glaçon ou un bloc réfrigérant, ice pack, tout en ayant des propriétés antimicrobiennes. Au congélateur ou à température ambiante, la matière ne change pas de forme. Contrairement aux blocs réfrigérants qui contiennent un liquide toxique, cette nouvelle gélatine peut être compostée à la fin de sa vie utile après une quinzaine de cycles froid-chaud. Des emballages en résidus végétaux. Les cartons d'œufs sont faits en résidus végétaux depuis des décennies. Mais l'extension à d'autres types d'emballages et surtout l'utilisation d'autres résidus que ceux de bois connaît une avancée significative ces dernières années. On parle maintenant de résidus de café, de vignes, de céréales et de fruits et légumes qui sont utilisés pour fabriquer des emballages après la récolte, dit Madame Bosby. Et on peut maintenant faire des emballages plus lisses et même hydrophobes. Congeler à volume constant. Une méthode de congélation utilisée pour préserver les organes humains pour les greffes pourrait-elle révolutionner le marché des aliments surgelés? Des chercheurs de l'Université de Berkeley pensent que oui, et Madame Bosby est d'accord avec eux. La congélation isocore consiste à augmenter la pression dans la chambre de congélation au fur et à mesure qu'on abaisse la température. Cela permet d'éviter les températures très basses, en bas de moins 20 degrés Celsius, utilisées dans les processus actuels de congélation très rapide des aliments en usine, la fameuse surgélation. La congélation isocore permettrait l'utilisation de congélateurs moins froids, donc moins énergivores, dans les entrepôts et moins de dommages aux aliments quand ils sont stockés dans les congélateurs des supermarchés et des domiciles. C'était « La créativité contre le gaspillage alimentaire », un texte de Mathieu Perrault paru le 13 mars 2024 dans La Presse.
Passion restant. Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse. Êtes-vous prêt à lire une vérité choquante? Attention, ça va brasser. 2025, c'est l'année où je vire polémiste. Je me lance. Les restants qui traînent dans nos frigos sont grandement sous-estimés. En les apercevant, certains crient à la redondance, à la tristesse des pâtes asséchées et aux Tupperware tachés qu'on n'a pas tellement envie de rouvrir. Ceux-là n'ont simplement pas compris à quel point les restes peuvent lier une communauté et nous conférer une supériorité morale. Vous trouvez que j'en beurre épais? Démonstration. Commençons par le filet social. Une soirée par mois, mes amis et moi nous retrouvons aux cuisines collectives du Grand Plateau à Montréal. Le demi-sous-sol propose deux fourneaux, une chambre froide, de grands comptoirs et tout l'équipement nécessaire à la cuisine en groupe, y compris les petits chapeaux pour éviter les cheveux dans les assiettes. On apprête chaque fois trois mets différents en prévoyant beaucoup de restants. En fait, on ressort de là avec une douzaine de portions chacun. Sur le coup, ça demande de la planification et du jus de coude, mais ça assure ensuite une formidable paix d'esprit. J'ai des repas pour toute la semaine, je n'ai pas à penser à mon menu pour plusieurs jours, je gagne du temps en prenant une pause de popote et j'économise considérablement. Préparer une grande quantité d'un même plat nous permet d'acheter en gros. Nos portions coûtent donc rarement plus de 3 $ chacune. Si le modèle vous parle, sachez qu'il existe des cuisines collectives dans plusieurs régions. Annuellement, elles impliquent 7 000 participants qui génèrent plus de 825 000 portions selon les données du regroupement des cuisines collectives du Québec. Pour notre bande d'amis, c'est une manière de se voir et de s'épauler dans les tâches aliénantes du quotidien. Partager la charge mentale du menu, des courses, de l'exécution et du nettoyage post-corvée, ça fait du bien. Pour d'autres, préparer des repas en groupe permet de briser l'isolement, de veiller à sa sécurité alimentaire ou encore d'ouvrir ses horizons culinaires. Dans tous les cas, on bénéficie de délicieux restants. Tout le monde gagne. Parlons du pouvoir maintenant. Si j'étais manipulatrice, j'écrirais que les restants peuvent nous permettre de dominer psychologiquement nos collègues. C'est un fait. La personne qui a le meilleur lunch commande l'admiration de ses pairs. La vie est un concours et l'individu qui réchauffe son souper de la veille gagne la médaille de l'adulte organisé. C'est comme ça. Je souhaite rarement susciter l'envie, mais je prends un véritable plaisir à voir la convoitise dans les yeux d'autrui quand je dévoile mes repas en lançant bonnement. Ça m'a coûté 1,75 $. J'ai fait ça avec ma gang. Ou mieux encore, bah, c'est rien. J'ai sorti ça du congélo ce matin. Des vieux restes. La reine du bal, c'est derrière nous. La reine de la cafétéria, ça, c'est à notre portée. Vous êtes une personne mature qui ne voit pas l'intérêt de faire sentir ses pairs inadéquats? Aucun problème, j'ai un argument pour vous aussi. Sur le plan strictement intime, qui n'aime pas prolonger le plaisir? Prévoir des restants, c'est déguster un souper en se réjouissant du fait qu'on pourra renouveler l'expérience le lendemain. Chaque bouchée est une fête, un voyage dans le temps. Le délice ne fait que commencer. Je me souviens qu'enfant, j'étais triste d'apprendre qu'on mangeait les retailles de la veille. Quelle innocente! Le restant, c'est la quasi-absence de vaisselle à faire. C'est le droit au temps, c'est la liberté. Vous n'aimez pas cuisiner? Tant mieux! Vous le ferez une fois et récolterez les fruits de votre labeur pendant 3 jours. Vous ne savez pas mitonner en version extra-large? L'Internet est là pour vous. Le regroupement des cuisines collectives du Québec recense par exemple certaines recettes de ses membres. Faire 16 portions d'un même mets n'aura jamais été si simple. La monotonie n'est pas votre truc? Réinventez vos restants en utilisant des outils qui génèrent des recettes à partir de ce que vous avez sous la main. Pensons à Vide Frigo, offert gratuitement par Glouton. Il suffit d'indiquer ce qui se trouve dans votre cuisine pour obtenir des suggestions de mets personnalisés. Votre vieux poulet peut devenir une pizza si vous tenez absolument à la nouveauté. Vous préférez vous fier au gourou de la cuisine? Marie-Lou, 3 fois par jour, Ricardo, Geneviève Augleyman, Savouré sur Mordu, et Recettes d'ici ont aussi des suggestions sur leur site respectif pour revaloriser vos recettes. Il n'y a plus d'excuses, je crois. Le blason du restant est enfin redoré. Une bonne affaire de cocher sur ma liste d'enjeux très urgents à régler cette année. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous sortirez votre plat du micro-ondes, que vous y plongerez votre fourchette et que vous vous direz « Ce repas est excellent. Je suis ravie d'en manger encore et je suis vraiment un adulte accompli. » C'était « Passion restant », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
L'automatisation menace près de 810 000 travailleurs au Québec. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 15 janvier 2025 dans Le Devoir. Presque un travailleur québécois sur cinq pourrait faire les frais de l'intelligence artificielle, de la robotisation ou des autres technologies d'automatisation, selon une étude. Et parmi ceux-ci, on trouve plus de caissières, de serveurs et d'adjointes administratives que d'ouvriers d'usine. Environ 810 000 Québécois représentant 18 % de la main-d'œuvre exercent une profession à haut risque d'automatisation, estime l'Institut du Québec, IDQ, dans une étude d'une quarantaine de pages dévoilée en janvier 2025. Ce serait le cas de presque les deux tiers, 59 % des personnes qui travaillent dans la fabrication et les services d'utilité publique, auquel on pense toujours lorsqu'il est question d'automatisation, et de 19 % de celles qui se retrouvent dans les métiers, le transport et la machinerie. Mais comme il est aussi notamment question d'informatisation et d'intelligence artificielle, IA, on ne se limite pas à la production de biens et on y retrouve également le quart, 25 % des travailleurs dans les ventes et les services, 27 % de la main-d'œuvre du secteur affaires, finances et administration, ou encore 9 % des professionnels de la santé. Pour être considéré comme à haut risque dans l'étude, il faut que les technologies disponibles permettent l'automatisation d'au moins 70 % d'une profession. Il faut également que ceux qui l'exercent ne puissent pas rapidement et simplement s'y adapter ou trouver autre chose d'aussi bien ailleurs. On retrouve ainsi les serveuses de restaurants et les caissières à l'épicerie, mais pas les coiffeuses. Les ouvriers d'usine et les opérateurs de machinerie lourde, mais pas les policiers. Les réceptionnistes, les adjointes administratives et les vérificateurs comptables, mais pas les artistes, les travailleuses sociales, ni les enseignants. Les jeunes et les travailleurs sans diplôme. Souvent employés dans les commerces de détail et la restauration, les jeunes de 15 à 24 ans sont plus à risque, 24 % que la moyenne. Ils pourraient l'être également à mesure que des entreprises confient de plus en plus à des machines certaines fonctions qui leur servaient de porte d'entrée professionnelle, comme les rôles d'employés à la saisie de données, de rédacteurs publicitaires, ou encore d'apprentis designers ou développeurs. S'ils persévèrent dans leurs études, ils devraient toutefois parvenir à se trouver de bons emplois et ne pas avoir trop de mal par la suite à y composer avec les nouvelles technologies, observe l'IDQ. En effet, les détenteurs d'un diplôme collégial, 14 % ou universitaire, 8 % se révèlent nettement moins vulnérables à l'automatisation que ceux qui se sont arrêtés après le secondaire, 23 % ou qui sont sans diplôme, 27 % Ce phénomène ne se limite pas à la formation initiale, a expliqué en entretien téléphonique au Devoir Emna Braham, présidente directrice générale de l'IDQ. On parle aussi de la formation tout au long de la carrière qui se révèle encore plus cruciale qu'avant. Il ne s'agit pas d'essayer de prédire l'importance que prendra une nouvelle technologie plutôt qu'une autre, ni d'attendre qu'une innovation vienne bousculer l'ordre des choses avant d'agir, mais de cultiver la capacité d'adaptation de ses employés. Cette question de la formation est d'autant plus importante qu'elle est au cœur de l'impact qu'a, sur les travailleurs, la grande innovation technologique qui accapare toute l'attention ces jours-ci, poursuit l'économiste et auteur principal de l'étude, Anthony Mignot. La révolution de l'IA. On parle évidemment de l'IA ici. Sa façon de venir démultiplier les capacités des autres technologies déjà existantes est extraordinaire. Elle se démarque également par la formidable vitesse avec laquelle son usage est en train de s'étendre, y compris dans la population en général, en raison notamment de sa grande facilité d'utilisation. Capable, à l'instar de ChatGPT, de créer du contenu original, L'IA générative s'invite ainsi dans des secteurs et des emplois qu'on croyait réservés aux humains et où les travailleurs les plus formés pouvaient se croire à l'abri de l'automatisation. L'étude rapporte cependant que ces derniers restent les mieux outillés pour s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est cette capacité d'adaptation des travailleurs mieux formés, ainsi que le fait que c'est rarement l'emploi au complet, mais seulement certaines tâches précises qui sont touchées, qui vient dégonfler certaines des estimations qu'on entend circuler sur le nombre de travailleurs menacés, explique Anthony Mignot. En fait, les emplois effectivement menacés par l'automatisation pourraient être 4 fois moindres qu'on ne le pense généralement, estiment des experts. Sans parler du fait que le déploiement de technologies comme l'IA requiert du temps et de l'argent, au point où plusieurs des emplois qui disparaîtront ne le feront que très graduellement et par simple attrition. Et puis on tend trop souvent à résumer l'introduction de technologies d'automatisation comme une simple destruction d'emplois, observent les auteurs de l'étude, à laquelle a collaboré aussi le Centre des compétences futures, un consortium formé par l'Université métropolitaine de Toronto, le Conference Board du Canada et la firme de consultants spécialisée Blueprint ADE. Il arrive effectivement que ce ne soit qu'une façon pour les entreprises de remplacer les humains par des machines sans produire plus de valeur. Mais la technologie peut aussi devenir un outil qui vient appuyer le travail des employés et leur permettre de se concentrer sur des tâches plus stimulantes et à plus grande valeur ajoutée. Une chance pour le Québec. Une telle évolution pourrait s'avérer particulièrement profitable à une économie comme celle du Québec, aux prises avec un problème de rareté de main-d'œuvre et en quête de façon d'augmenter sa richesse produite par habitant, fait valoir l'IDQ. Alors que seulement 11% des entreprises canadiennes prévoient d'utiliser l'IA pour produire des biens ou offrir des services au cours des 12 prochains mois, celles du Québec font un peu mieux, avec 12%, et les 2/3 reconnaissent devoir former leurs employés actuels à son utilisation. Elles devront, entre autres, se trouver des experts en informatique ainsi que former leurs dirigeants et leurs gestionnaires pour qu'ils pensent à l'IA dans leur plan à long terme, dit Emna Braham. Mais il leur faudra surtout aider leurs employés les plus vulnérables à développer leurs compétences transversales comme l'intuition, l'empathie et la créativité pour assurer leur adaptabilité professionnelle. C'était « L'automatisation menace près de 810 000 travailleurs au Québec », un texte d'Éric Desrosiers paru le 15 janvier 2025 dans Le Devoir.